Assaut le matin.
Marceau, what do you want to be?
Marceau le matin.
Dans 49, je sais pas si c'est signe qu'on s'améliore, Jeff, mais on avait prévu la chronique de Marc-Antoine Reid à 8h50.
C'est fort, hein?
C'est ce qui se passe.
Ben, il se passe que les politiciens ils ont jamais trop de temps pour nous autres.
Vous êtes en train de
mes entrevues.
Vous êtes en train de me transformer, les boys.
C'est l'enfer, hein?
Je suis rendu presque à l'heure.
Tabarnouche.
Ouais.
Bon, ben, coudonc.
Mais c'est pas un manque de respect, c'est juste que j'ai de la misère à gérer mon temps.
Ah, c'est pas que t'as de la misère à gérer ton temps.
C'est mes priorités qui sont pas aux bonnes places.
Je suis pas d'accord.
T'sais, ça serait quoi, mon problème?
Hein? Ton problème?
La procrastination.
Non. Trop de bons sujets à jaser.
Têteux!
Ben non, mais c'est vrai!
C'est pas moi qui gère ton salaire. Dis-moi pas ça.
Ben, je te dis ça en toute transparence. Je suis pas sûr que tu me donnes une augmentation.
Ouais.
Ben, quand mes patrons font un bon coup, je leur dis.
Ouais.
Quand mes patrons font un mauvais coup, malheureusement, je leur dis aussi.
Ouais.
Donc.
Quand moi, je fais un mauvais coup, tu me le dis aussi, puis je suis content de pas être ton patron. Ouais,
bon, fait que tu vois. C'est équitable. Moi, je trouve que tu fais de la bonne radio, tu poses des bonnes questions, puis tu nous amènes des sujets très pertinents, comme ce matin, le sondage sur le coût de la vie. Ça tombe bien, on va parler justement avec Marc-Antoine Reid.
Ben oui.
Puis,
il est 8h50, on s'en va sur le 8h51, on va être en retard.
Puis le processus de détransition de Rose Guérin. J'ai trouvé que c'était deux excellents sujets à discuter.
Bon, parfait. 8h50. Tiens, Marc-Antoine Reid qui
bonjour,
est là, planificateur financier et juge gestion de patrimoine. Ça va, mon ami?
Ça va très bien.
Ouais, je suis content de t'avoir avec nous autres, comme à chaque semaine d'ailleurs.
Aussi.
Plein de choses à jaser avec toi. Vous souvenez-vous d'avoir eu des cours à l'école secondaire en comptabilité, vous autres?
Non, j'ai juste eu un cours d'économie générale là, en secondaire 5, puis encore là, c'était donné par un prof d'histoire. Fait que ça vaut ce que ça vaut.
Moi, j'ai eu un cours d'économie familiale.
Oui, c'est vrai, en secondaire 2, j'ai appris à coudre des boxeurs.
Des boxeurs, puis ces bobettes-là,
ces
boxeurs-là, je les ai gardés jusqu'à presque 40 ans.
Ouais, moi, j'avais fait un.
Sais-tu, c'est qui?
C'est qui?
Qui a jeté ça?
Non. Sans les enlever.
La mère des enfants?
Sans les enlever.
La mère des enfants.
Moi, c'est boxe.
T'es écœuré des voir, elle dit ça, c'est lettre, tu jettes ça. Hey, moi, c'était un rêve. Là.
Ben, bravo, parce que moi, ces boxeurs-là, j'avais troqué de la récupération avec une fille qui s'appelait Annick Fortin.
Ouais.
En maths, vu qu'elle avait des difficultés en mathématiques, j'avais dit, écoute, je vais faire de la récup avec toi, puis tu pourras même, vu qu'on était Fortin, on était assis à un côté de l'autre, tu pourras même regarder sur ma copie pendant l'examen si tu me couds. Mes boxeurs.
Moi, les gars, ça a été ma meilleure béchamel à vie.
Toi, c'était de la béchamel.
On avait fait la sauce béchamel.
Nous autres, c'était des étuis à crayon.
Ouais.
C'était les fameuses boxeurs.
Il y a la machine à gomme en techno en secondaire 3, bam.
Ça, c'est éducation manuelle et technique.
Ouais,
je l'ai
réussi. Ouais. Hey, je vais te dire une affaire.
Mais il n'y avait pas de cours de comptabilité. Il n'y avait pas vraiment de cours assez précis là, sur l'économie. J'ai l'impression que c'est ce qui manque aux Québécois aujourd'hui. Des gars de 30, 40, 50 ans, 60 ans.
C'est pour ça qu'il faut que les gens nous écoutent à chaque mardi matin.
Oui, mais la littératie financière n'est pas si facile que ça à trouver. Puis c'est très, très lourd.
Ouais.
Fait que oui, des chroniques pour éduquer au niveau de la finance.
Ça agréable, accessible, exact.
C'est pas toujours plate, là.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, jamais plate le mardi, c'est ça que tu veux dire.
Jamais plate le mardi. mais en général, tu sais, quand on parle d'économie, quand on parle d'impôts, quand on parle d'un sondage ce matin sous la plume de Patrick Bellerose, il y a un sondage qui a été fait par la Confédération des syndicats nationaux. Ça, c'est la CSN. Et on a posé la question à 1000 Québécois, 1000 Québécoises. C'était quoi leur poste de dépense le plus élevé, donc qui pesait sur leur situation financière personnelle? Moi, tu me regardes dans les yeux, je te regarde dans les yeux, je peux te le dire tout de suite, c'est l'impôt.
Ouais.
Je n'ai pas de retour sur l'investissement depuis que j'ai l'âge de payer des impôts ou depuis que j'ai atteint comme la braquette pour payer des impôts.
Ouais.
J'ai aucun retour sur investissement. J'ai l'impression, puis là, Jeff va peut-être me reprendre, mais j'ai l'impression que je me promène sur la route, puis tout ce que j'ai payé avec mes impôts, c'est un champ de ruines qui a été mal entretenu. Je trouve ça triste en bon Dieu. Donc, moi, je t'aurais dit l'impôt.
Ouais, moi aussi, j'aurais dit ça.
Jeff, t'aurais dit?
J'aurais dit l'impôt. Peut-être, après, je l'ai dit tout à l'heure, là, peut-être que rapidement comme ça, j'aurais dit mon hypothèque.
Parce que c'est dans l'actualité. L'hypothèque, l'alimentation,
c'est
dans l'actualité.
Mais quand on en a parlé ce matin, la première réflexion qui m'est venue après t'avoir entendu parler, c'est que je me suis dit, oui, c'est l'impôt, crime. Quand je regarde mon talon de paye, c'est ça, mon poste de dépense.
T'as-tu des clients qui t'appellent et qui te disent qu'ils ne payent pas d'impôt alors qu'ils en payent en sacrifice des impôts?
Je leur pose souvent. Mettons un auditeur qui appelle ou quelqu'un qui appelle puis que je connais pas, souvent une question que je pose, payez-vous de l'impôt? Puis trop souvent, malheureusement, la réponse c'est « Hey non, j'en paye pas cette année. » Et que ça, j'ai toujours un petit sourire. Je comprends absolument l'erreur, mais j'ai toujours un petit sourire de dire t'en, tu veux dire, t'en payes pas plus que ce qui t'a été retenu à chaque
année. Ouais, j'en paye pas. Quand je fais mon rapport d'impôt, j'en paye pas.
Ouais,
hey, je suis chanceux, j'ai retiré de l'impôt cette année. Faut
regarder les lignes attentivement. Ça fait des bons montants. T'sais, tu disais l'hypothèque, c'est une grosse dépense, c'est vrai. Mais tu sais, quand tu passes au financement dans une banque, tu sais, ils essaient de ne pas dépasser les ratios pour être approuvé.
Exactement, le fameux ratio.
Environ
32,
tu sais, on ne dépasse pas 32. Puis quand tu es à 32, là, tu ne fais pas de folie dans la vie.
Non.
Fait que tu sais, la plupart des gens sont en bas de, tu sais, peut-être à 25% en moyenne, tu sais, ceux qui ont une hypothèque. Et bon, c'est sûr, ça dépend des revenus. Il ne faut pas généraliser. Si tu as des jeunes enfants et tu travailles juste un petit peu en haut du salaire minimum, c'est sûr que tu ne payes pas beaucoup d'impôts pour que tu sortes d'aide. Mais si tu as un salaire un petit peu plus élevé, d'avoir un taux marginal d'aux alentours de 25%, d'un taux combiné plutôt, là, d'aux alentours de 25%, c'est fréquent. Là,
ben, la CSN dit que les gens riches gagnent 100 000 $ et plus. Mais à 100 000 $ quand tu fais moins aux impôts, moins à l'hypothèque, moins à l'épicerie, moins à ton REER ou à ton fonds de pension, il en reste plus beaucoup pour ton loisir.
100 000 $ une personne, il en reste à peu près 70 de mémoire. Là.
Ouais, c'est ça.
Il y en a 30 qui partent.
Des fois, on dit, on entend ça. Moi, je n'ai jamais dit ça parce qu'il y a quelqu'un qui me l'avait expliqué de l'autre côté. Mais des fois, on dit, tabarouette, si tu vas rester aux États-Unis, là, ça coûte cher s'assurer aux États-Unis pour la santé. Ben, c'est parce que vous ne regardez pas votre rapport d'impôt. Là. La moitié de l'argent que vous envoyez à la province de Québec, la moitié et un peu plus maintenant, va directement à la santé. Fait que c'est comme si vous payez une prime d'assurance aux États-Unis pour vous faire soigner. La seule différence, c'est que là-bas, quand vous êtes malade, ils vous soignent.
Ouais.
Ici, ils vous demandent d'être patient.
Ouais. Mais savez-vous quoi? Soyez une des patient. Solutions à ça, pour faire un lien avec mon sujet, c'est de construire son patrimoine.
Construire son patrimoine.
Prendre les bonnes décisions, maximiser ce qu'on peut faire pour l'enrichissement, laisser travailler le temps. Puis toutes ces constatations-là,
ils deviennent quand même... Juste pour terminer avec mon sondage, sur les 1000 personnes qui ont répondu, c'est où est-ce qu'ils envoient le plus leur argent, c'est 40% des gens qui ont dit « c'est l'épicerie qui me coûte le plus cher
»,
alors que c'est l'impôt. En deuxième position, le loyer. Avec 20% des gens à peu près, là, je fais des chiffres ronds. Et pour le reste, c'est autour de 15% des gens qui disent « Non, t'as pas mon poste de dépense, c'est les impôts. » Et leur solution, Marc-Antoine, t'es-tu assis? Tiens donc la table comme faut pour pas que tes mains partent de tout bord, tout côté. La solution pour régler le problème au Québec, là, des Québécois, ce serait qu'il y ait une meilleure redistribution de la richesse au Québec, donc d'imposer les riches encore plus. Ça, c'est 55% des gens qui disent « les contribuables les plus riches devraient payer plus ».
De faire monter le point numéro 3, dans le fond.
Et pour eux autres, et pour eux autres, quelqu'un de riche, là, c'est 100 000 par année.
Ouais.
Quelqu'un de riche, là, à 100 000 par année, il fait partie de la classe moyenne pauvre s'il est seul.
Ouais. Ouais, c'est tout à fait. Tout à fait.
C'est d'une tristesse. C'est vraiment d'une tristesse. Puis je regardais les chiffres ce matin, je les ai sortis. Puis on va terminer avec ça pour ma part. Puis après ça, on va embarquer sur ta chronique. Au Québec, là, c'est 12,8% des contribuables québécois qui gagnent plus de 100 000 $ par année. 12,8. Et parmi ceux qui gagnent le plus que 100 000 $ par année, ils assument 72% de l'impôt total sur le revenu des particuliers. Et là, vous me dites qu'il faut leur charger encore plus cher. Le Québec est riche en pauvres et pauvre en riche. On aurait intérêt à inverser tout ça.
Il y en a certains qui vont choisir... maintenant, quand c'est trop cher à quelque part, tu choisis un autre restaurant.
Oui, exact. Chronique de Marc-Antoine Reed, c'est la finance comportementale, donc de l'être humain et ses billets et le succès avec les placements.
Ben oui, c'est les deux sujets qui me passionnent. C'est les marchés financiers, la bourse, le placement. Mais aussi l'être humain. Puis les deux sont vraiment très, très reliés. Là, si vous regardez, là, à titre d'introduction, la théorie, un portefeuille modéré, on aurait investi en 1935 1000 $ dans un portefeuille modéré. À la fin 2025, ben, il vaudrait plus de 2 millions si on n'y avait pas touché. Donc 60% exposé au marché financier, donc en action, puis 40% en revenus fixes, des obligations, quelque chose de sécuritaire, puis il aurait donné un rendement annualisé de 8,7%. Si cet individu-là avait été capable d'assumer plus de risques, puis il avait été dans un portefeuille dynamique, diversifié, là, action canadienne, action internationale, action américaine, il vaudrait plus de 10 millions, le portefeuille. Maintenant, il y a peu d'individus, il y a peu de gens qui arrivent à se coller à cette théorie-là. Il y a un écart vraiment important entre le rendement moyen de l'investisseur et qu'est-ce que nous dit cette fameuse théorie-là. Puis pourquoi, où est-ce que réside l'écart ou qu'est-ce qui explique l'écart? C'est la finance comportementale, tous les biais de l'être humain, la façon qu'on se comporte et qui vont être des obstacles à avoir du succès au niveau du placement. Fait que c'est un sujet fascinant, dans le fond, les deux. Puis ce sujet-là, en plus, bon, oui, il aide à avoir du succès dans ses investissements, à éviter des erreurs en placement, mais il aide à mieux comprendre l'être humain aussi, puis toutes sortes de choses. Écoutez, je suis juste pour le fun, à chaque année, j'ai un pool de hockey, puis les règles sont complexes. Puis j'ai lu beaucoup là-dessus. J'observe ces biais-là là, chez les joueurs là, avec qui on peut faire des échanges, puis tout ça, dans la vie, les comportements dans la vie aussi. Fait que je vous en nomme quelques-uns, puis l'effet négatif que ça peut avoir sur ces décisions d'enrichissement. Ça vous va? Le premier, je parle de l'aversion au risque et au regret. Ça dit quoi, ça, comme biais comportemental ou sur la finance comportementale? Ça dit que la douleur est plus grande quand on réalise une perte que quand on fait un gain. Fait que quand on fait un bon coup, on a un gain, là, t'sais, la satisfaction là, t'sais, est moins grande que la douleur qu'on ressent à l'opposé
ouais.
Quand on fait une perte. Fait que ça va influencer négativement nos comportements. Une des choses qui est frappante dans tout ça, c'est comment on se souvient des prévisionnistes négatifs. Parce qu'à un moment donné, ils vont avoir raison, ces gens-là négatifs qui prédisent la correction boursière et tout ça. Puis hey, lui, il l'avait dit, ça devient comme un peu le gourou là, que les gens suivent dans les années suivantes. Puis les fois d'après, ils se trompent.
Mais ça arrive à chaque année. Là. Il découvre quelqu'un aux États-Unis qui ne s'est jamais trompé.
Ouais,
puis là,
ça.
Lui, ouais. Il prédit que dans 6 mois, ça va être catastrophique exact. Au niveau de l'économie. Ouais. Tout d'un coup, dans 6 mois, il n'y a rien qui se passe, puis le gars disparaît, puis il en retrouve
la
un
La seule
autre,
bonne t'sais. Prédiction, c'est que la prochaine fois, il risque de se tromper.
Mais
là,
la
t'sais.
Peur, ça fait vendre. Là.
Exact, c'est ça. Puis regretter une action qu'on a prise, ça, retenez bien ça aussi, ça peut servir dans la vie aussi, de regretter une action qu'on a prise, c'est beaucoup plus fort que de ne pas prendre la décision. On a toutes déjà dans notre entourage, ça est toutes déjà arrivé aussi. On hésite, on pose pas un geste parce qu'on a peur de regretter, mais l'opportunité qu'on manque la quantité de fois à pas prendre des décisions sur lesquelles on a des convictions est énorme. Là, si tu regardes sur la durée d'une vie, puis même dans son portefeuille de placement. Fait que les résultats, c'est quoi les résultats de ce biais-là qui est présent chez l'être humain? On va avoir tendance à maintenir des mauvais placements. Quand tu le vends, là, c'est comme si tu admets que tu t'es trompé, tu n'as pas pris le bon stock.
Ah, ouais.
Fait qu'on va laisser durer.
Mais les gens sont attachés à leur argent.
Sont attachés, c'est un autre biais, là, l'effet de dotation, quelque chose que tu possèdes
ouais.
A une beaucoup plus grande valeur que quelque chose que tu possèdes pas, même si c'est la même chose. Fait que je vais l'expliquer, celui-là. Maintenant, je fais petit exercice. Tasse de café là, à côté de Jeff sur le bureau, c'est celle à Jeff. Toi et pas à toi. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Toi, tu vas lui donner une valeur, là, mais il y a fort à parier que la valeur que tu vas lui donner parce qu'il n'est pas à toi, elle va être plus basse que celle que Jean-François donne. Pourquoi? Parce que c'est à lui. Il possède.
À
ne pas faire avec vos blondes, les gars.
C'est ça. Fait que je reviens. Des fois, c'est l'inverse avec les blondes, par exemple. Des fois, les gens se rendent pas compte à quel point ils en ont une bonne.
Oui.
Ouais, c'est ça. Puis là, ils changent. Ils disent, oh, mon Dieu, je m'ennuie de toi.
Exact.
Fait que je reviens à la version au risque et au regret. Les résultats, maintenir un mauvais placement. Un autre que je vois fréquemment, rester avec un conseiller qui nous offre peu de services ou qui fait pas ses suivis. Mm-hmm. C'est plus facile de ne pas prendre de décision que de prendre une décision et de regretter ou de ne pas faire le bon choix. Ça fait qu'on reste dans quelque chose qui est pas bon. Et ça se reflète dans les résultats. Le deuxième, le biais d'ancrage. Ça, c'est fréquent aussi. Si tu fais une analyse d'une situation pour prendre tes décisions d'investissement, puis tu vas intégrer un facteur qui n'a aucun rapport dans ton analyse, qui va biaiser ton analyse. L'exemple le plus fréquent, le prix que tu as payé. Le prix que toi, tu as payé, il n'est pas le même que le prix que les autres. C'est à aucun rapport dans le potentiel du site. La quantité de fois que quelqu'un me dit « Ah, je vais le vendre, mais qu'il revienne au prix que je l'ai payé. »
Pardon? Je vais le vendre, mais qu'il
revienne... Je vais le revendre, mettons, un titre qui a baissé. Là, ouais. C'est le mix des deux premiers. Premièrement, s'il vend, c'est comme s'il admettait son erreur, oui. Il a baissé. Deuxièmement, la personne me dit « Ah mec, je récupère mon argent qui revient au même prix, là je le vends. » C'est pas, on s'entend-tu que c'est un critère qui vient de nulle part? Est-ce que ça influence le potentiel du titre? Moi, je réponds toujours à la personne, si aujourd'hui tu avais cette somme-là, est-ce que tu rachèterais, est-ce que tu ferais exactement le même investissement? Ils me répondent tout le temps non. Ben, je dis, c'est la seule chose qui compte en placement. C'est comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui. Le reste, tu laisses ton argent, c'est du dead money. Là. Tu laisses ton argent là juste pour récupérer ou je le vends, mais qu'il soit à 100$. Mm-hmm. 100$, ça veut rien.
T'sais, j'ai la chance d'avoir un planificateur financier, puis je fais confiance, puis il s'organise tout le temps pour que je réussisse à rentrer dans mes affaires. Mais je joue à la bourse, moi. Ouais. J'ai tout le temps un 5% ou un 10%, je pense que c'est plus 10%, que moi, je m'amuse en bourse. Puis là, ben j'ai des placements qui sont un peu plus sécuritaires, d'autres où c'est un peu plus risqué. Mais normalement, je suis un peu pépère dans mes affaires. Au début, j'allais voir ça à tous les jours. Et ça me stressait, là. Ouais. T'as pas idée à quel point ça me stressait. Puis à un moment donné, j'ai lu dans un livre de finance que les gens qui font beaucoup d'argent en bourse, pour la plupart, c'est des gens qui sont morts.
C'est ça,
t'as entendu, Jeff?
Ouais.
Les gens qui font le plus d'argent en bourse
moins d'erreurs
sont
humaines.
Morts. C'est les gens qui sont morts.
Ils font moins d'erreurs humaines.
Ils font moins d'erreurs humaines.
Ouais. Puis tu vois, il y a une étude aux États-Unis qui avait été faite par les fidélités qu'il y a des courtiers, qu'il y a des comptes de courtage à escompte.
Ouais.
Puis il avait regardé la quantité de fois, il était capable d'avoir la quantité de fois que leurs clients se branchaient. Puis ceux qui se branchaient plus, ils avaient moins bons résultats que ceux qui se branchaient moins en moyenne pour voir la valeur de placement. Et l'explication à tout ça, c'est que quand tu regardes, tu t'exposes encore plus aux biais humains, à tes réactions, réactions humaines. Ça fait que ça ne veut pas dire que c'est pas correct de bien suivre ses placements. C'est juste qu'il faut que tu sois plus conscient des erreurs humaines que tu es capable de faire, les émotions que ça peut te faire ressortir puis biaiser tes décisions. Ça fait que tout à l'heure, j'ai parlé du troisième, l'effet de dotation. On donne plus de valeur à quelque chose qu'on possède. Qu'est-ce que ça fait? On tombe en amour avec nos placements. C'est pas capable de reconnaître que le titre il est en avance sur lui-même, qu'il t'a donné des bons profits, puis que tu peux passer à une autre opportunité. Donc là, tu tombes en amour avec, puis tu veux absolument le conserver, puis oups, la ballonne a dégonfle, puis t'as raté une opportunité de faire de bons profits, puis d'aller ailleurs où est-ce qu'il y avait une sous-évaluation, entre autres.
C'est-tu des discussions, des fois, que tu as avec tes clients, des fois, un bon 15-20 minutes pour les convaincre, là?
Oui, mais tu sais, mettons ces discussions-là, approfondies, ça, ce serait plus, mettons tu rentres dans mon bureau puis tu me parles de ton 10% que tu day trades, on parlerait un peu plus de ces effets-là parce que t'es, à chaque fois que tu prends une décision, t'es à risque de...
Moi, je tombe tout le temps en amour. Je tombe tout le temps en amour.
T'es un grand sentimental.
Non, mais tu sais, je regarde les graphiques, là, je me dis, tabarouette, quel beau graphique. Bon. Je tombe en amour.
Oui.
Mon cœur palpite puis je me dis, ah, ça, c'est en montée.
Ouais. Mais, on y va.
Heureusement, j'ai pas trop fait de conneries parce que je considère que je m'amuse à la bourse. Puis c'est pas des gros montants, soit dit en passant, là, mais je m'amuse. Fait que ce qui fait en sorte que quand je perds, ça me dérange pas tant parce que je sais que je vais récupérer ailleurs.
Ouais. Une autre erreur qui est souvent présente chez les investisseurs autonomes, l'excès de confiance. Comment elle se développe après une certaine période de succès? Malheureusement, c'est heureux. Dans les marchés financiers, il y a souvent des poussées où est-ce que tout fonctionne un peu bien. T'sais, il y a des périodes où est-ce que c'est relativement facile de faire des sous.
Ouais.
Et là, la personne apprend confiance un peu à tort. Et donc là, elle prend de plus en plus de risques. Elle s'expose de plus en plus à ses propres prédictions. Puis, comme disait Warren Buffett, c'est souvent lorsque la marée se retire qu'on voit que ceux qui se baignent nus. Donc là, c'est à ce moment-là, quand le marché devient plus difficile, bien là, l'hécatombe arrive. L'investisseur, il n'était pas conscient du risque auquel il était exposé et c'est souvent dû à un excès de confiance. Deux petits derniers, la confirmation. Ça fait que ça, c'est fréquent aussi. Mettons, tu veux prédire l'économie, les marchés boursiers, c'est fréquent. Là, chaque jour, on lit des rapports d'analystes ou des prédictions, puis ils se contredisent toutes. Ils ont chacun leur vue, puis c'est correct. Mais une tendance qui arrive souvent quand tu analyses quelque chose, c'est quand il y a beaucoup de facteurs, bien, tu as déjà une tendance vers une opinion avant de commencer à analyser. Puis là, tu vas prendre ceux qui appuient ta thèse, si on veut. On voit ça beaucoup dans les périodes de fortes embellies sur certaines choses. Il y a quelques années, il y a eu les actions du pote, là, tu sais, que tout le monde allait fumer
t'es
dans tous les pays, ça allait être dérégularisé.
Juste à être sûr, t'es plus porté à faire confiance aux gens qui pensent comme toi?
Non, c'est que tu analyses une situation.
Ouais.
Mettons, tu penses quelque chose. On a tous déjà un peu nos pensées avant. Le fait que là, tu t'analyses, tu regardes plein de facteurs, ben là, tu vas porter attention aux données qui confirment l'opinion que tu as déjà.
C'est ça.
Plutôt que partir neutre, tu vas juste accumuler des arguments pour appuyer ta thèse, ce qui n'est pas une bonne analyse.
Mais non, mais non.
Fait que ça, c'est fréquent aussi. Puis là,
c'est souvent pour ça que tu as besoin de l'avis d'un professionnel qui, lui, n'a pas vraiment d'émotion puis qui n'a pas nécessairement intérêt
à qui a vu des bulles dégonflées
Moi,
j'ai vu le dot-com ou le Nortel. Il y avait plein de beaux rapports qui disaient que ça allait continuer. Après ça, le pot, c'est la même chose. Le Bitcoin, on verra le futur. Mais quand tu lis des thèses sur le Bitcoin, il y a plein de bons arguments pour dire que ça va continuer de...
Il y a des gens qui ont fait énormément d'argent avec le Bitcoin, puis il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent
Absolument.
Avec le
Bitcoin. Puis il y en a d'autres qui en ont fait avec des affaires illégales, puis qui disent qu'ils l'ont fait avec le Bitcoin. après
c'est
ça,
pas grave, ils se parlent des restaurants. C'est des histoires à succès.
Non, quand j'étais jeune, moi, c'était l'import-export, c'est un peu là. Mais faire sa part, le dernier, c'est l'effet de cinq expositions. Celle-là, pour l'appuyer, j'ai une petite étude vraiment intéressante qui a été faite par l'Université de Pittsburgh. Ils ont sorti des photos de quatre filles avec des beautés similaires. Un sujet qui peut t'intéresser.
Quatre filles avec des beautés similaires.
Je sais que t'es intéressé à la bourse, t'es intéressé à l'être humain.
Marc-Antoine Reed, excuse-moi, là, mais toutes les femmes sont différentes.
Oui, t'as raison.
C'est ça, la beauté. C'est leur beauté. C'est... On a tous nos critères de beauté. Ouais.
Mais la beauté physique, dans ce cas-ci, similaire selon plusieurs critères.
Mettons, prenons quatre gars. Il y en a un qui est riche, il y en a un qui est pauvre, l'autre est laid, puis l'autre est gros.
L'étude, c'était des filles. Fait que je m'excuse. C'était des filles d'études. C'est à l'Université de Pittsburgh que ça se passait. Ils ont présenté les quatre photos, puis ils ont fait voter les étudiants c'était qui la plus belle fille. Puis la seule différence, étant donné qu'ils étaient à peu près toutes dans le même range de beauté, c'est la quantité de fois que ces filles-là s'étaient présentées au cours. Il y en a une qui était présentée 0 fois, l'autre 5 fois, 10 fois, puis 15 fois.
Okay, laisse-moi deviner, c'est laquelle qui était la plus belle? Celle-là qui était là le plus souvent ou celle-là qui était le moins souvent?
L'indice, le titre, ça s'appelle l'effet...
Moi, celle-là qui était là le plus souvent ou celle-là qui était là le moins souvent?
Moi, j'arrête, c'est la zéro parce que tu contemples quelque chose que tu n'as jamais vu.
L'effet de rareté, mais Marc-Antoine, c'est
non,
ça?
Non, ça s'appelle pas l'effet de rareté, ça s'appelle l'effet d'exposition.
L'effet d'exposition? Fait que
c'est celle de 15.
Celle de 15 fois.
Que là, tout le monde
elle a été convoitée. Tu l'as vu, tu as le temps de mijoter ta patente.
C'est celle-là qui était là. C'est celle-là qui était là le plus souvent.
Celle-là que tu as vu le plus de fois, tu te dis, waouh, elle est.
Tu as pu sentir son odeur.
Fait que la plus belle, messieurs, c'est votre conjoint.
Donc, l'effet d'exposition, c'est quel genre d'erreur que ça peut nous faire faire? Ouais. On va avoir tendance à privilégier les opportunités de placement de trucs qu'on voit. On passe en avant de Jean Coutu. Ben là, c'est plus coté en bourse, mais tu sais, de dire, je vais acheter des actions de Jean Coutu là, sans se poser la question. C'est-tu un bon secteur? C'est-tu la meilleure pharmacie à détenir à l'époque? Là, c'était coté en bourse.
Ouais. C'est drôle que tu dises ça, parce que j'avais vu le truc contraire en psychologie, là. C'est pour les gens qui veulent se créer comme une personnalité, c'est d'être le moins disponible possible. Donc, plus ton horaire est chargé, selon ce que tu dis à la personne, là, plus elle va considérer que quand tu vas venir la voir, ça va être un moment qui est exceptionnel.
Ah ouais, OK. Mais je pense que tu pourrais faire un mix des deux. Tu peux être exposé, mais occupé.
Fait que la plus
faut qu'elle te voie aussi.
La plus belle fille, c'est elle.
Faut qu'elle te voie et qu'elle te remarque.
Ouais.
Tu sais, comme toi, tu as un look, tu remarques, tu sais, tu vois Yannick, tu croises Yannick,
c'est gentil,
tu viens Yannick.
C'est gentil.
Fait que tu étais plus de risque. Probablement que c'est un effet dont tu profites, l'effet d'exposition.
je pensais pas que tu avais un petit côté féminin pour remarquer ces affaires-là.
Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tous ces biais humains-là? Je vous encourage, si ça vous intéresse un peu, parce que là, vous intéresserez pas juste au marché boursier, mais de comprendre l'être humain, comprendre ses biais de décision, ça va vous aider à prendre de meilleures décisions, puis c'est juste ça qu'on fait en placement.
J'adore.
Et ça augmente l'importance. Souvent, je dis, ma job est plus simple qu'on pense, puis c'est un genre de guide qui voit ça avec du détachement, puis qui a plus de facilité à reconnaître qu'on est potentiellement dans ce type d'erreur-là, puis qu'on risque de s'écarter de la théorie. T'sais, mon objectif, c'est d'accoter le client, puis même battre la théorie que je vous ai dit au début.
Ben oui.
Puis ça, mettons, une des affaires faciles, pour la majeure partie des gens, je pourrais quasiment les influencer à dire un peu l'inverse de ce qu'ils disent, puis je les aiderais. Les gens, ils veulent prendre plus de risques quand ça va super bien. Ils veulent laisser leur argent de côté quand ben ça oui. se passe un peu moins bien. Après ça, s'ils s'impliquent un peu trop dans leurs décisions, sans être conscients de ça, ben je vais aller voir ces biais-là chez la personne, puis je vais l'amener à réflexion, puis à éviter certaines de ces erreurs-là aussi. Puis ceux qui le font de façon autonome, ben sachez que vous êtes encore plus exposé à ça.
J'adore. Hey, dernière question. Y a-t-il un genre de cérémonie des Oscars pour les planificateurs financiers? Les meilleurs planificateurs financiers au Québec, ceux qui ont les meilleurs résultats au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord?
Ben, y a des concours là-dessus, mais t'sais, c'est les gens qui appliquent eux autres mêmes qui ouais. posent leur candidature. Puis il y a des jurys aussi. Ça veut pas dire que les gens qui sont nominés ne le méritent pas, mais ouais. ils ont quand même pris le temps de remplir tout le cahier, puis c'est pas nécessairement leur client directement.
Mais quand tu travailles pour une boîte là, qui est une grosse boîte comme IG, là,
ouais.
est-ce qu'il y a une analyse des moves que vous faites, puis ça fait en sorte que plus c'est payant pour ton client, plus t'es haut dans le pointage?
Il y a beaucoup de choses qui sont analysées. Là. Il y a beaucoup de reconnaissance dans notre milieu ouais. pour nous inciter à vouloir se dépasser, travailler fort. Plus que notre industrie avance, plus que ces efforts-là sont mesurés aussi l'intérêt du client il est important dans tout ça. C'est plus juste des concours de vente. Il y a il y a beaucoup de sondages qui sont faits avec les clients. On voit les notes que les sondages donnent à la firme, mais aussi à leur planificateur financier sur des critères qui sont importants sur la firme. La conformité est importante aussi. Tu peux te classer en performance puis ne pas être éligible à ta reconnaissance si ton book, comme on dit, n'est pas en règle ou s'il pourrait y avoir des petites choses non parfaites dedans. Ça fait que je te dirais oui à ta réponse ou ça dépend. Le fameux ça dépend. La réponse, c'est oui, mais c'est ce qui est mesuré, c'est pas nécessairement le rendement procuré au client. Il y a des conseillers qui ont une clientèle plus âgée, ça fait que techniquement, leur rendement devrait être moins bon et ils sont moins en mesure de prendre du risque avec leurs clients.
Ouais.
Fait que c'est difficile de comparer deux clientèles.
Marc-Antoine Reed, planificateur financier, IG Gestion de patrimoine, on te rejoint comment?
Facile à rejoindre, mais au sans frais qui illustre bien ce qu'on fait comme travail avec chacun de nos clients. 833 ton plan. Sinon, vous pouvez nous googler, équipe Marc-Antoine Reed, où est-ce que vous allez tomber, entre autres, sur notre site, où est-ce que vous pouvez prendre contact? Ou même réécouter cette chronique et les précédentes, qui reste quand même un bon bout de temps sur votre site Internet qui est très bien fait. Qui est...
BLVD.fm yes. ou encore l'application Boulevard 102.1. Téléchargez-le si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde, tout le temps.
Good.
Salut.
Hey, bonne semaine.
À la semaine prochaine. Bye-bye. Boulevard.